Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la flébite du télétravail, une nouvelle pathologie apparue depuis un an, depuis le début de la crise sanitaire et le développement du travail à distance. Bilan de cette année de télétravail avec des médecins spécialisés, reportage dans un instant. Une affiche de gala pour le premier match des Bleus ce soir à l'Euro de football, France-Allemagne, à regarder entre amis, avec modération toutefois. Pas de dérogation au couvre-feu, mais une certaine bienveillance demandée aux forces de l'ordre. À suivre aussi bientôt une formation, la laïcité pour tous les professeurs. Nicolas Sarkozy appelé à la barre du procès Big Malion. Et pour terminer, l'histoire d'un prêtre tombé amoureux et suspendu d'un coup par l'Église.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui l'actrice, scénariste, réalisatrice Suzanne Lindon. Son premier film, 16 printemps, sort en salle demain.
France Inter.
Il est synonyme de liberté retrouvée ou au contraire de souffrance, le télétravail. Sébastien, quel bilan tirer de cette année de crise sanitaire?
Question qui se pose en ce moment dans toutes les entreprises. Depuis une semaine, elles ont vu revenir progressivement des salariés qui travaillaient en distanciel, comme on dit depuis des mois, satisfaits pour les uns, épuisés pour les autres. Le bilan est contrasté. C'est aussi ce que constatent les médecins du travail qui découvrent même parfois de nouvelles maladies. C'est un reportage signé Claire Chaudière.
Dans ce centre parisien, la médecine du travail pourrait provisoirement être rebaptisée médecine du télétravail, tant le sujet est devenu omniprésent, explique le docteur Olfa Jouini, référent de Covid. D'abord, une nouvelle pathologie a été identifiée.
La flébite du télétravail. On a vu des personnes débarquer avec des flébites parce qu'elles étaient restées assises des jours et des jours et des jours. Nos confrères cardiologues nous sont alertés sur cette nouvelle pathologie entre guillemets.
Quant à l'usure psychologique liée à l'isolement longtemps pressenti, elle apparaît désormais clairement dans les consultations.
Il y en a un qui m'a dit « j'ai plus de cadre, docteur, je n'ai plus de cadre, il faut que je revienne ». Ils sont plus qu'usés. On a l'impression que tout est en suspens pour eux. Et puis, à contrario, il y en a qui ne veulent pas revenir. Qui vous disent « mais moi, ça me va très bien, je ne vois pas mes collègues ». C'est le sujet aujourd'hui pour les employeurs. Au savoir que certains salariés ont déménagé, sans le dire à leur employeur.
Reste le cas des salariés dits « vulnérables », parfois encore extrêmement angoissés.
Ils sont anxieux sur tout, c'est-à-dire qu'ils sont anxieux sur la pathologie, sur la reprise de travail, et ils sont anxieux sur la vaccination. Aussi. Du coup, on se demande un peu, et c'est ce que j'essaye de travailler avec eux en consultation, comment est-ce qu'ils voient la lumière au bout du tunnel?
Enfin, dernière alerte, le risque de surchauffe de certains managers très impliqués pour éviter que leurs équipes ne craquent pendant les confinements et qui, pour une partie d'entre eux, témoignent cette professionnelle de santé, sont aujourd'hui eux-mêmes en train de craquer.
Reportage signé Claire Chaudière.
Premier match ce soir, Sébastien, du 11 tricolore à l'Euro de football, et déjà premier défi.
Oui, car la France, toute championne du monde en titre qu'elle est, va devoir affronter d'entrée de jeu une autre équipe championne du monde, l'Allemagne, la Mannschaft, qui joue à domicile en plus à Munich, devant 11 000 supporters allemands, 4 fois plus que de supporters français. Coup d'envoi à 21h. Alors sachez que si vous choisissez de regarder le match entre amis, le couvre-feu reste fixé à 23h, pas d'exception. En revanche, le ministre de l'Intérieur invite la police à faire preuve de clémence dans ses contrôles. Margot Steve.
Dans une note adressée au préfet, Gérald Darmanin appelle les forces de l'ordre à faire preuve d'une particulière mansuétude dans le contrôle des supporters qui rentreraient chez eux après avoir regardé le match à l'extérieur. Il devrait donc y avoir une petite souplesse pour les retardataires à 23h. Hors de question, en revanche, de laisser les supporters se rassembler. À Paris, 200 CRS seront donc mobilisés pour disperser les attroupements dès qu'ils se forment. Des effectifs prévus habituellement en journée seront aussi reportés sur la soirée pour surveiller les endroits stratégiques, les quais, les parcs et les esplanades. Un dispositif qui a déjà été mise en place dès ce week-end pour empêcher les attroupements de fêtards, comme c'était le cas samedi et dimanche aux Invalides, par exemple.
Autre match à suivre aujourd'hui, Hongrie-Portugal à 18h. On l'a dit, il n'y aura que 2 à 3 000 supporters français présents en Allemagne pour soutenir les Bleus. Pour les millions d'autres, ce sera la télé et même pas en terrasse. De nombreuses villes interdisent en effet les écrans en extérieur pour éviter les rassemblements. Les terrasses dont le nombre explose depuis le déconfinement, notamment à Paris, pour le meilleur et pour le pire, au point que la situation se tend franchement entre pro et anti-terrasse. Béatrice Duguay.
Raphaël s'est pincé pour y croire. Il est le propriétaire du bar Les Deux Chauves, quartier Montmartre à Paris.
On a eu la bonne surprise en arrivant de découvrir que notre terrasse avait été complètement démontée. Il restait un petit bout quand même.
Le plus insolite, c'est que les planches ont été retrouvées, tout près.
Bien emballées, ouais, en petits fagots, bien scotchés, une dizaine de petits fagots qui étaient posés 100 mètres plus loin dans la rue.
Terrasse aux normes fixées par la mairie pourtant, à 23h le soir de la réouverture, le bar était fermé. Mais un riverain a vu un homme à l'ouvrage vers 5h20 du matin avec une dévisseuse, forcément son acte interroge.
On s'est posé la question de savoir si c'est un riverain qui est mécontent ou si c'est quelqu'un qui a voulu la voler, qui s'est fait surprendre et qui a laissé tout en plan et qui est parti. Mais du coup, oui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé.
Au prix actuel du bois, le vol peut être immobile, mais apparemment d'autres terrasses ont-elles été vandalisées dans le secteur. A l'inverse, des riverains souffrent dans ces quartiers du centre-ville. Pierre, par exemple, papa de deux enfants en manque de sommeil, il ne veut pas de mal aux commerçants, mais la multiplication des terrasses éphémères est un enfer en ce moment.
On a toujours vécu dans ce quartier animé. Oui, il y a un enjeu commercial et puis on y tient, nos bars et restaurants, mais ne rendez pas la vie des riverains impossible. Hein. Moi, je suis chez moi à 20h, j'ouvre la fenêtre, j'ai 75 décibels dehors. Hein. Je suis au milieu d'un chantier de BTP. Quoi. Ça, c'est pas gérable.
Les riverains redoutent, entre autres, la levée du couvre-feu. Ils demandent à la mairie de Paris de ne pas transformer le centre-ville en bar géant.
Béatrice Duguay, au chapitre Covid encore, la vaccination des plus de 12 ans commence aujourd'hui en France, mais sous condition 5 millions d'ados concernés, uniquement avec du Pfizer-BioNTech, autorisation signée des deux parents obligatoire, tout comme le consentement oral des enfants. Les lycéens qui pourront bientôt se faire vacciner, mais qui doivent aussi d'abord passer le bac, le compte à rebours a commencé, épreuve de français et d'histoire géo demain pour les candidats au bac pro, épreuve de philo jeudi pour les élèves de la voie générale et technologique. Des élèves qui, à partir de l'an prochain, feront face à des enseignants mieux formés aux questions de la laïcité. C'est l'une des conséquences de l'assassinat de Samuel Paty en octobre dernier. Comment faire pour que les personnels de l'éducation nationale puissent aborder les questions de religion, de laïcité, sans crainte, sans autocensure? Eh bien, un rapport a été demandé à Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général. Rapport rendu et validé hier par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui annonce un plan de formation ambitieux sur 4 ans dès la rentrée de septembre. Sonia Princey.
À partir de la rentrée prochaine et sur les 4 ans à venir, tous les personnels des écoles, des collèges et des lycées, et pas seulement les professeurs, suivront une formation d'une journée à la laïcité et aux valeurs de la République. Les contractuels seront concernés également. 1000 formateurs issus de toutes les académies et de tous les départements seront eux-mêmes formés, puis déployés dans les établissements. Dans chaque école, collège ou lycée, un référent laïcité sera désigné et des modules spécifiques de formation sont prévus pour les personnels de direction, notamment dans leur rôle de soutien aux enseignants, mais aussi pour les conseillers principaux d'éducation, les CPE, et pour les inspecteurs des disciplines susceptibles d'être contestées au nom d'une religion ou de croyance. Le ministre veut aussi renforcer la formation initiale sur ces questions. Les étudiants seront mieux préparés à une épreuve des concours qui porte notamment sur la connaissance de la laïcité et des valeurs de la République et leur transmission aux élèves. L'objectif est que chaque personnel ou futur personnel de l'éducation nationale ait les mots, les attitudes pour faire face à toutes les remises en cause de la laïcité.
Sonia Princey, l'actualité étrangère encore.